De retour à l'émission Au gré du temps en compagnie de Mme Huguette Proulx. Alors, vous disiez donc, avant l'intermission de cette première demi-heure, que vous aviez été une des premières à aborder les femmes avec un sens qui leur était peut-être plus près de leur réalité.
Oui, ça, je trouvais que c'était bien important. Les forcer à relever la tête, pas être obligé d'avoir la tête dans leur chaudron 24 heures sur 24. Mais à relever la tête, mais pas à leur donner le mal des hauteurs, pas en leur donnant le vertige. Les femmes étaient aussi intelligentes que les hommes, à mon point de vue, moi.
Mais vous aviez quand même ce discours relativement franc. On disait qu'à l'époque, il y avait Jeannette Bertrand, puis il y avait Huguette Proulx.
Oui, moi, je passais le matin, malheureusement, Jeannette Bertrand passait le soir. Oui. Et ce qui m'enrageait, Bleu Marine, c'est que mes recherchistes, puis moi, au début, j'avais même pas de recherchistes, mais à la fin, on m'en avait donné. Pas beaucoup. Non, j'avais pas de recherchiste du tout. C'est moi qui faisais la recherche. Et les recherchistes de Jeannette me disaient, on se tient à la porte, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on prend tes sujets, puis on les apporte à Jeannette pour
mais
le soir.
Mais vous étiez toutes deux des pionnières
ah,
dans votre
domaine. Ah oui, complètement. Et puis Jeannette a écrit beaucoup. Et moi, je trouve que ce qu'elle a fait, ça, c'est un coup de génie. C'est là-dessus que je l'apprécie, moi, plus encore que sur tout le reste. C'est quelle famille. Ça, c'est absolument adorable. Et c'était le pendant de Father Knows Best, du côté américain.
Voilà.
C'était papa qui avait raison. Mais c'était adorable. Hey, jusqu'au chien qui avait un chèque de paye.
Ouais.
Une femme d'affaires, Jeannette. Boy, oh boy! J'aurais voulu avoir... Elle se vendait de façon magnifique.
Ouais. Ouais. Father Knows Best était interprété par Young, j'oublie son prénom, qui a Robert Young, qui a fait par la suite Dr. Willoughby.
Oui!
Qui a été une série...
Et moi, j'ai eu un Dr. Willoughby à Sainte-Adèle, qui est le Dr. Carole Lorrain. Carole avec deux R, O-L-L, Carole Lorrain, elle a eu Ariane, dont le papa et la maman qui sont un couple incroyable.
Oui.
Ça, c'est... Tu les mets là sur une... Vraiment, moi, je les mettrais sur une estrade pour que tous les gens les voient. Ça, c'est un couple qui se comprend, qui s'entend, qui... Un couple harmonisé comme on en voit peu.
Et c'est ce que vous souhaitez...
Et c'est leur fils qui me soignait à Sainte-Adèle.
Et c'est ce que vous souhaitiez à travers vos émissions, faire en sorte que les gens... J'allais dire, s'aime davantage.
Oui, je l'appelais mon bon docteur Welby. Et c'est mon neveu, le docteur Ouimet, qui voulait plus soigner les gens de la famille parce qu'il y avait eu des cas impossibles. Et puis l'éthique hein, ne veut pas que les médecins soignent les gens de leur famille.
Mm-hmm.
Mais on l'aimait beaucoup, hein, c'est un bon médecin.
Oui.
Mais quand tu m'as parlé de Carole Lorrain, j'ai dit, je vais y aller, mais j'y allais en chignant. Et puis, je vous dis que je ne l'ai pas regretté.
Mais tout ça pour dire aussi que dans le cadre de vos émissions, vous souhaitiez effectivement que les gens apprennent à mieux se tolérer,
oui,
à s'aimer davantage,
oui, oui,
à se faire en quelque sorte plaisir les uns les autres.
Ben oui, c'est pas vivable autrement.
Madame Proulx, prochaine chanson, elle est d'une personne que vous avez probablement côtoyée dans les corridors de TVA, Shirley Theroux.
Ben, je l'ai bien connue, Shirley, la belle Shirley. Elle avait une mère, elle, qui avait des doigts de fée, qui lui tricotait des ensembles. Vous ne pouvez pas savoir comme elle était élégante. Une vraie petite poupée. Et elle, un jour, elle avait un tailleur qui n'était pas tricoté. Mais j'ai dit, dans le monde, où as-tu acheté ça? C'est bien beau. Elle m'a donné le nom de la boutique française. J'ai acheté un chapeau il y a 15 ans de ça au moins.
Et vous l'avez encore?
Je l'ai toujours. Il est toujours à la mode.
Alors, on dirait sans aucun doute que ce chapeau a un goût de soleil.
Voilà.
Le temps de l'enfance est loin de moi, mais
Armand Dubois au micro, en compagnie d'Huguette Proulx, l'animatrice de la télévision qui a marqué finalement, je dirais, qui a marqué la télévision canadienne dans le secteur privé parce que vous avez été une pionnière.
Bien, j'ai été une des premières, oui, à en faire comme on en a fait dans le temps, à travailler comme on a travaillé. Tu sais, moi, j'ai déjà apporté une pomme, j'ai pas pu la manger, j'avais pas le temps.
Vous travailliez très fort à
cette époque. On travaillait très fort. Ouais. Ah oui, ça, on nous en a demandé beaucoup.
Avez dit précédemment que vous faisiez la recherche de votre émission. Ouais. Vous choisissiez parfois, j'imagine, vos propres chroniqueurs.
Je les choisissais, je les prenais avant l'émission, après l'émission, pour leur dire faites ci, faites ça, parce que c'était des gens qui n'en avaient jamais fait.
Est-ce que vous étiez, et là je pèse mes mots, mais est-ce que vous étiez une personne très dirigeante?
Oui.
Oui. Oui. Est-ce que c'était facile de travailler avec vous?
Probablement pas toujours. Mais seulement, je leur disais, écoutez, moi, jamais je vais vous donner un conseil qui va aller à l'encontre de votre bien-être et de votre futur. Quand vous aurez passé un bout de temps à mon émission, vous allez voir que vous allez pouvoir travailler nulle part, n'importe où ailleurs. Et c'était vrai. C'était vrai. Parce que c'est pas un métier facile. Et quand vous réussissez, il y a un tas de gens qui n'aiment pas ça, qui voudraient être à votre place. Mais s'ils voulaient être à notre place, il aurait fallu qu'ils fassent le même parcours.
Mais le succès, vous l'avez connu. Vous avez été même Miss Radio-Télévision.
Ah oui, enceinte de 6 mois.
Ah oui?
Et personne ne s'en est aperçu.
En 1963. Voilà.
C'est assez vous dire à quel point j'avais une belle silhouette en temps régulier, enceinte de... Mais ce qui est très drôle...
Je peux
drôle,
vous dire qu'elle est toujours très coquette.
Oui, ça oui, je suis restée. Maman disait toujours, quand on est vieux, faut surtout pas écœurer les jeunes. Alors oui, oui, moi j'aime être coiffée, maquillée. Vous n'allez jamais me voir démaquillée dans la vie de tous les jours, dans la rue. Je ne sors pas si je ne suis pas maquillée. C'est tout.
Est-ce que vous, quand vous comparez l'époque dans laquelle vous avez vécu et les temps modernes, quel constat faites-vous?
Je constate, comme je le dis souvent à mes enfants, que nous sommes la génération à laquelle il a fallu le plus s'adapter et se recycler. On se recycle sans arrêt. Et je trouve qu'actuellement, plus on paie pour les services et moins on en reçoit. Et c'est la faute à personne, c'est la mondialisation, on attend partout, ça n'est pas facile, ça n'est pas facile d'être jeune, mais les jeunes, rassurez-vous, c'est encore beaucoup moins facile d'être vieux.
Vous avez jamais pensé à la politique?
On m'a offert 2 fois. Daniel Johnson, père, et sa femme que j'adorais. J'adore tous les 14 Johnson.
Oui.
Et la femme de Daniel, moi, je trouve qu'elle a eu un mérite
Madame
infini,
Reine,
parce qu'elle a dit à ses enfants, chez nous, quand vous serez à la table, s'il y en a un seul qui mentionne le mot politique, je le fous à la porte. Je ne veux pas entendre parler de politique.
Parce que ce pouvait être un objet de division.
Ben oui, ben comment ils étaient divisés en deux, oui. La moitié fédéraliste, oui. La moitié séparatiste.
Mais on n'entrera pas sur ce terrain glissant.
Ben on va faire comme Reine, elle a été très sage. Ben cela fait que les 14 enfants, enfin ceux qui restent parce qu'il y en a décédés, s'entendent comme s'il n'y avait jamais eu de politique chez eux.
Alors, ils n'ont jamais brisé leur rêve, en quelque sorte. Et Jean Sablon dit toujours qu'il ne faut pas briser un rêve.
Oh oui, puis il a dansé sur cette musique-là à mon émission. Quel être charmant il était!
Depuis le jour où je vous aime, mon cœur est sans espoir, malgré votre sourire même, tout est là, triste et noir. Pourtant un jour dans un baiser, vous m'avez promis de m'aimer. Il ne faut pas briser un rêve, même s'il vous semble un peu fou. Tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous. déjà, en vous serrant dans mes bras, je sens que votre étreinte me manque. Il ne faut pas briser un rêve, même s'il vous semble un peu fou. Tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous. Tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous.
Nous recevons aujourd'hui Mme Huguette Proulx, qui a marqué les belles années de la télévision privée au Canal 10, comme on le disait. Vous avez partagé votre rôle d'animatrice avec plusieurs personnes?
Ah oui. Ah ben oui. Il me fallait beaucoup de gens. Et j'avais des médecins, des psychologues, des psychiatres. À la télévision, moins. Mais j'en ai eu à la télévision. J'ai eu des médecins. J'ai eu des médecins avec lesquels je me suis attrapée, d'ailleurs, au point de... dire, quand on m'a dit « faut que vous vous rétractiez envers ce médecin-là » parce qu'il avait soigné l'enfant, il s'est élevé tard la nuit pour aller soigner le fils d'un des directeurs. J'ai dit « c'est lui ou moi et ça sera pas bien long, ça va être moi. Moi, je m'en vais. » Vous alors, je vois avec lui.
Vous n'aviez pas la langue dans la poche.
J'étais pas payée pour être muette.
Oui, ceux qui vous ont connu et qui se souviennent de certaines de vos émissions, particulièrement les émissions de ligne ouverte, oui, où les gens téléphonaient, parfois pour des conseils, il vous arrivait souvent d'avoir une réponse assez draconienne.
Monsieur, moi, les gens qui profitent du système, les profiteurs... les menteurs, les hypocrites qui font leur coup en dessous, qui sont jamais capables de faire quelque chose face à face avec vous, j'exècre cela. Le monsieur qui m'a dit qu'il travaillait pas depuis 22 ans parce qu'il avait la fièvre des foins, alors que je l'ai eu pendant 30 ans et que j'étais au poste non seulement l'après-midi, mais le soir... pour sauver la mise de CJMS à ce moment-là, je lui ai dit que c'était un paresseux. Voir son travail... Non, il était sur l'assisté sociale parce qu'il avait affaire.
Alors, pour
points.
Vous, la notion d'intégrité, la notion d'honnêteté, c'était fondamental.
Ben oui, aussi.
Est-ce que ça vous arrivait à l'occasion de ressortir de vos émissions un peu secoué?
Ah oui. Oui? Ah oui. Une femme battue, entre autres, là, qui m'a raconté son histoire, puis qui s'était jamais plainte parce qu'elle passait pour une folle dans sa famille. Et le moment où elle est devenue amoureuse de ce garçon-là qui profitait d'elle, il n'y a rien qu'il n'a pas fait pour lui faire gagner des sous, et puis qui était jaloux comme un singe, il l'enfermait dans une maison mobile aux confins d'une grande ville, et qui, elle est devenue excédée, elle n'en pouvait plus.
Ça nous atteint.
Elle est sortie un jour, et puis quand elle est revenue, il était passé par l'arrière de la maison, il y avait eu, tu sais, ils ont des antennes, hein? Il était passé par l'arrière, quand il est revenu, elle a voulu entrer dans la maison, il lui a donné des coups de poing tellement forts, qu'elle a passé par-dessus les six
marches. Alors, on ne peut pas demeurer insensible à cela.
Elle est tombée sur le ciment. Elle s'est ouverte le front complètement, tout le visage massacré, des côtes brisées. Et les voisins ont appelé les policiers. Elle n'avait jamais voulu le dire parce qu'elle voulait continuer à faire croire à sa famille qu'elle avait réussi.
Ah, ça secoue quelqu'un.
Moi, j'ai pleuré cette fois-là. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et je ne suis pas une femme braillarde.
Madame Prou, on va transformer un peu tout cela en mettant un peu une note joyeuse à l'égard, malgré tout, de ce que vous venez d'évoquer. Il y a eu Charles Trenet, que vous avez rencontré.
Oui.
En deux mots.
En deux mots, j'ai amené les enfants. On est parti, mon mari et trois enfants, parce qu'on voulait qu'ils connaissent Trenet. Et évidemment, il n'était plus dans le temps actuel. Il n'y avait aucune mise en scène. C'était lui, son petit chapeau, puis bonsoir. Nous, ça nous suffisait parfaitement. Les deux grands l'ont beaucoup aimé. Le petit, qui avait 11 ans, était tanné. Il a fallu que je le prenne sur mes genoux. Toute la deuxième partie du spectacle de Trenet, j'ai eu mon grand veau, qui avait des grands bras, des grandes jambes, sur moi, pour écouter Trenet.
Et Trenet, qui a probablement chanté à cette époque. Il y a de la joie.
Ah oui. Toujours.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour. Mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur, message à Kate Pliboutique, et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Avec nous aujourd'hui, Huguette Prou, cette grande dame de la télévision, on peut le dire. Cette grande dame?
Où vous voulez, vous savez.
Vous avez travaillé aussi avec un grand monsieur, celui que vous appeliez votre grand garçon, Serge Bélair.
Oh mon Dieu, Serge, l'étoile pendable qui m'a joué. Ah! Oh, oh, oh. Parce que Serge était jeune à l'époque, hein,
ouais.
Quand on a travaillé ensemble. Mais quel talent il avait, ce garçon-là. Il pouvait faire n'importe quoi. Moi, j'adore encore sa voix. Et si j'étais réalisateur, je n'hésiterais pas 5 minutes à l'engager.
Vous avez connu de beaux moments avec Serge.
Excellent. En dépit des tours, comme je vous dis, là, quand il m'a dansé la danse du ventre, il s'est organisé avec l'équipe technique. On a toujours eu des équipes techniques qui nous aidaient beaucoup. On les aimait, on les adorait, nos gars de l'équipe technique.
On a reçu Serge Bélair dans le cadre de cette émission. C'est
oui.
Un monsieur charmant,
oui.
Très généreux,
oui.
Qui nous évoquait effectivement cette belle période qu'il avait connue en votre présence.
Ah oui, Serge était un gars formidable. Et quand vous dites généreux, il ne pouvait pas garder. Il y avait des gens qui lui offraient des bougies, des fleurs, des gros bouquets. Il aurait pu apporter ça à la maison, donner ça à l'élu de son cœur. Il donnait ça tout le temps à l'équipe technique.
Alors, Madame Prou,
il ne pouvait rien garder pour lui.
En termes, c'est un peu notre surprise. C'est presque un cadeau. Nous avons choisi un enregistrement de Serge Bélair, enregistrement qu'il a effectué à une station pour laquelle vous avez aussi travaillé, CJMS.
Ah, ben oui.
Cette émission s'appelait Samedi Poésie, peut-être vous en souvenez-vous.
Oui, oui.
Il avait enregistré à l'époque un texte qui s'appelait « C'était une vieille dame ». Nous avons décidé de faire entendre ce texte lu par Serge Bélair et ce sera tout de suite enchaîné d'une chanson de Claude Léveillé. Sachez que malgré le texte, on ne souhaite pas du tout votre mort.
Vous voulez encore me tuer?
Pas du tout, mais c'est
ça devient une habitude.
Mais c'est un bel hommage.
Mais cessez tout le monde de prendre vos rêves pour des réalités.
Mais c'est un bel hommage et c'est une façon à nous de vous dire merci pour toutes ces belles années. Alors voici Serge Bélair suivi de Claude Léveillé.
Claude Léveillé, une merveille. Bon retour à la santé, Serge. Revenez-nous, on a envie de vous entendre encore et encore et encore.
C'était une vieille dame que tout le monde aimait beaucoup. Elle demeurait belle malgré le temps. Sa beauté venait d'en dedans. Elle riait si souvent. Personne ne savait raconter comme elle les souvenirs du bon vieux temps. C'est dans la mémoire qu'elle était belle. Elle aimait tout le temps. Quand on lui parlait, on la sentait vibrer. On pouvait lui dire ses tourments. En tout temps, elle savait comment calmer. Elle priait tout le temps pour tous ceux qu'elle aimait tant, pour les autres qui lui demandaient. C'est en dedans que si souvent elle priait. Elle vivait au jour le jour dans l'espérance, toujours. Elle disait à chacun souvent, « Faut faire confiance au bon Dieu, souviens-t'en. » Elle était douce en dedans. Un jour, Dieu vit qu'elle était prête et belle, et il la prit avec lui dans son ciel. Ceux d'en bas perdaient leur vieille dame qui était si belle, si tendre, si pieuse et si douce. Mais ils gagnaient en haut un nouvel ange gardien, le plus beau, le plus doux, le plus tendre sur lequel Dieu ait jamais mis la main. Oui, c'était une vieille dame que tout le monde aimait beaucoup.
Avec nos yeux, avec nos mains, dont nous aurons été humains, nous nous serons à peine vus, nous serons nous touchés. À peine. Nous aurons mis tout notre enjeu à ne pas être malheureux. La roue ne cesse de tourner en portant gestes et regards dans un tourbillon d'infortune sans nous offrir un lendemain. Fermez nos yeux, fermez nos mains. Qui retrouvera les chemins parmi lesquels nous voulions se prendre? Le mot de passe de l'amour. Nous aurons vécu sur la terre sans rien tenter d'un jour à l'autre. Pour apprivoiser le mystère, nous serons passés au soleil.
Alors voilà qui met un terme à cette émission. Madame Proulx, ça a passé rapidement.
Je pense qu'on a pris un peu plus de temps que vous vouliez
en prendre. Avez tellement de belles choses à nous raconter.
Je suis une grande toupie, alors c'est pas difficile de me faire parler.
Est-ce qu'on peut dire votre âge?
Ben oui.
On ne demande jamais l'âge à une dame, mais dans votre cas,
non,
c'est presque honorable.
Dans mon cas, là, écoutez, je ne suis plus une dame, je suis une vieille femme. J'ai 85 ans fait.
Et je peux vous le dire, pour vous qui êtes à l'écoute, elle n'en paraît qu'à peine 40.
Oh, 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 oh. Alors là, j'aurais très mal vieilli à 40 ans avant cette bobine-là.
Mais avec une expérience formidable. Écoutez, ce fut vraiment un énorme plaisir que de vous recevoir et que d'entendre ce partage de souvenirs qui évoque, j'en suis certain, auprès de nos auditeurs et nos auditrices, de merveilleux souvenirs.
Merci à vous.
Encore une fois, merci beaucoup. Cette émission était réalisée sous la supervision de M. Nicolai. Armand Dubois au micro. À une prochaine, Mme Proulx.
À la prochaine.